Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Bruno Jeudy de Paris Match.
Bonsoir.
Et Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis. Bonsoir mon cher.
Bonsoir Laurence.
Allez, on va parler de cet après-discours d'Emmanuel Macron. A-t-il convaincu les Français? Non, on l'a vu. Hein, ils n'ont pas été très convaincus par le discours sur le fond du président hier, suivi par plusieurs millions de téléspectateurs. Et il y a aussi les oppositions politiques. On va écouter tout de suite Marine Le Pen, qui a été élue chef du groupe parlementaire Rassemblement National à l'Assemblée.
Il n'y avait pas grand-chose dans ce discours. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est qu'Emmanuel Macron entend, semble-t-il, à la différence de son ministre des Relations avec le Parlement, M. Véran, considérer que toutes les forces politiques méritent d'être respectées. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs. Bon, voilà, je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale l'obligera à comprendre cette réalité.
Marine Le Pen au micro de Gauthier Lebret. Sur le fond, l'analyse est impeccable, Louis.
Je trouve que c'est assez juste, et alors elle n'est pas la seule à le dire. D'ailleurs, tous les chefs de parti d'opposition disent à peu près la même chose. Ce qui était assez étonnant hier soir dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il demande aux partis de dévoiler leur jeu, de faire des propositions sur les textes qu'ils aimeraient voir ou qu'ils seraient disposés à voter. En réalité, ça doit venir du président de la République, puisque de toute façon, l'initiative des textes vient du gouvernement, les projets de loi viennent du gouvernement. Donc c'est à Emmanuel Macron de dévoiler son jeu et ensuite, normalement, aux partis d'opposition d'éventuellement discuter des fameux compromis auxquels Emmanuel Macron a fait référence. Donc je trouve que Marine Le Pen est plutôt dans le vrai, dans ce qu'elle dit. Et ça montre une chose, c'est que moi l'impression que j'ai, c'est que Emmanuel Macron sait pertinemment en fait que en faisant cette proposition, les partis n'étaient pas en mesure de répondre favorablement. Et donc il souhaite paradoxalement le blocage. C'est ce qu'il ne dit pas en fait. C'est complètement contre-intuitif. D'un côté, il appelle à une nouvelle méthode de gouvernement, le compromis, donc ces belles idées. Et puis de l'autre côté, en fait, il les empêche de pouvoir répondre favorablement. Et voilà, pour moi, Emmanuel Macron souhaite le blocage.
Ouais. Alors, hier, François Bayrou disait que ça le stimulait, en tout cas, la situation. Bruno Jeudy, là, vous pensez qu'il en est à souhaiter le blocage ?
Moi, j'ai été frappé hier soir par le côté posture du président. Je l'ai trouvé plus politicien que les politiciens qu'il dénonçait en 2017. C'est-à-dire, on voit bien qu'il veut susciter, prendre à témoin l'opinion pour dire « il bloque ». Et c'est ce qui aujourd'hui on constate, puisque finalement ils lui répondent par une posture également classique des chefs de parti qui lui ont répondu dès hier soir, le renvoyant dans ses buts. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que le président, pour organiser un compromis, ça veut dire que d'abord le président doit montrer qu'est-ce que dans son programme il est prêt à amender, puisque il a fixé un cadre assez strict finalement à ce compromis, à bâtir ces nouveaux compromis. En gros, c'est bon, ni dette ni impôts, ça, pourquoi pas, mais c'est quand même un périmètre constant de son programme présidentiel. Or, c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire que pour faire un compromis, il faut que le président fasse un pas, et pour que les oppositions qui sont prêtes à en faire un, avancent également. Donc là, on est dans le blocage. Est-ce qu'on est dans un blocage définitif, ou est-ce que ça va avancer au fond, quand les textes vont arriver, puisque c'est ça finalement, c'est ce qu'en coulisses Elisabeth Borne et d'autres essaient de faire, c'est-à-dire bon, bah, le premier texte, ce sera le texte pouvoir d'achat, est-ce que là-dessus, ils peuvent avancer sur un accord, ou est-ce que ils peuvent avancer non pas sur un accord, mais sur le fait qu'il y ait de l'abstention à défaut d'adhésion, parce que l'abstention permet aussi de diminuer la majorité absolue qu'il faut obtenir sur le texte. On a bien compris que sur le collectif budgétaire, ça se terminerait en 49-3, puisqu'ils ont droit à un 49-3 par session. Mais je trouve que de toute façon, tel que le président a présenté sa façon de bâtir des compromis nouveaux, ça allait dans
le mur. En fait, c'est pas les gens qui veulent faire, il veut que ce soit les oppositions qui le fassent.
Et donc, c'est ça qui est
hallucinant.
Donc, c'est posture contre posture, et aujourd'hui, on est déjà dans une situation de blocage qui n'est peut-être pas définitive, parce que de toute façon, c'est 4 jours,
le deuxième tour
législatif. Ils vont en reparler, et puis c'est pas fini.
Oui, Gilles Maintré, votre analyse.
Moi, je l'ai trouvé sur la défensive, en fait, hier soir. Finalement, assez faible dans sa présentation, parce qu'il commence déjà par rappeler qu'il a été élu, que c'est lui qui est légitime. on avait envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de le rappeler ? C'est qu'il y a peut-être un point d'interrogation dans la tête de tout le monde. Ensuite, on voit bien que le plus petit dénominateur commun, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'accord, c'est effectivement, ça va être des majorités par texte. Texte par texte, effectivement, comme ça a été très bien rappelé, l'initiative est au gouvernement, et on va avancer, comme ça, à vue, texte par texte. Donc lui, Emmanuel Macron, il cherche à avoir le... quelque chose qui serait un tout petit peu mieux que ça. Donc on a eu d'abord l'Union nationale, ça ne fonctionnait pas.
Je pense que c'est Bayrou qui a pris ses vessies pour des lanternes, que Emmanuel Macron ne l'a jamais
voulu. Oui, c'est le désir
de la réalité. Heureusement, parce que franchement, imagine, c'est quand même plutôt pour des situations de guerre, d'union sacrée.
Oui, alors, parce qu'on n'arrête pas de parler. Alors, réserve, Bruno, je dis qu'on n'arrête pas de mentionner l'exemple allemand. La grande coalition.
C'est pas l'Union nationale en Allemagne.
Non, mais parce qu'ils n'ont pas ce terme-là. Mais ce qu'on appelle la grande coalition, qui était un petit peu la même chose, c'est que tu vois, on peut trouver, un peu comme en Italie aussi, tous les partis à un moment, ou quasiment tous les partis au gouvernement, c'était un peu.
Mais la constitution n'est pas.
Attendez, terminé.
Je suis d'accord avec ça, mais en tout cas, il y a eu cette première idée d'une espèce de coalition très large, en tout cas, bien au-delà des fameux 40, et non pas 30, comme le disait le président de la République, des fameux 40 qui manquent.
Pourquoi il a dit
38? Parce qu'il avance, il dévoile pas tout son jeu. Il est en train de récupérer l'UDI et les élus de droite.
Ils ne l'ont pas dit, mais en tant qu'il en a récupéré, en tout cas.
Ça, c'est les 30 députés qui lui manquent pour faire sa majorité. On est d'accord.
Une trentaine, donc effectivement, depuis hier, on se demande un petit peu ce que. Où sont ces fameux 30. Mais donc, il cherche à avoir quelque chose d'intermédiaire entre cette grande coalition qui ne construit pas et puis le vote au texte par texte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, demander aux partis de définir leur ligne rouge et leur ligne verte est une façon de pouvoir avancer. En tout cas, c'est le seul chemin possible pour avoir autre chose que la navigation à vue. Et effectivement, il n'a pas d'autre choix. Simplement, il a habillé ça d'un discours assez maladroit, que c'était perçu que par tout le monde comme ça.
Il y a quelque chose qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est qu'il demande donc aux partis d'opposition de dévoiler un peu leur jeu, de dire ce sur quoi ils pourraient être d'accord et ce sur quoi ils ne seront pas d'accord. Et en fait, il a fait exactement le même exercice la veille en recevant tous les chefs de parti. Et d'ailleurs, Fabien Roussel, quand il sort de l'Élysée, il dit « Moi, il n'y a aucun problème, je pourrais envisager de rejoindre un gouvernement d'Union nationale, mais avec telle et telle condition, et en gros, Emmanuel Macron ne l'acceptera pas, donc le gouvernement d'Union nationale ne se fera pas. » Donc en fait, Emmanuel Macron, il connaît déjà leur réponse, au moins sur la forme.
Alors pourquoi il joue à ce petit jeu de dire 48 heures ?
C'est ce que vient de dire Bruno Joly.
Dans 48 heures.
Il va revenir, déjà, occuper l'espace. Ça fait réfléchir tout le monde, ça fait cogiter, alors pour, contre, essayer de diviser.
Les éditorialistes politiques, peut-être, oui.
Essayer de diviser, et en tout cas...
Le pays profond, je suis pas sûr, mais bon.
Non, mais au sein des groupes politiques, ça turbine un peu quand même.
Bien sûr,
il y a des réflexions, il y a parfois des divisions, il y a des désaccords, et de fait, c'est vrai, il n'y a aucun groupe politique qui échappe à cela. Et ensuite, ce qu'il veut, c'est pouvoir se présenter à son retour de sa tournée internationale, disant « j'ai proposé l'Union nationale, personne n'en a voulu ». J'ai proposé aux partis de jouer le jeu, d'expliquer sur quoi ils seraient d'accord pour faire des compromis. Personne ne m'a répondu, ils n'ont pas travaillé. Et donc, je pense qu'il veut arriver à cette conclusion-là. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il veut le blocage pour, à terme, faire en sorte que les Français finissent par se lasser et réclament une dissolution et finissent par se dire, on a voté avec notre cœur, nos tripes, mais on voit bien qu'en fait, ça ne permet pas de faire avancer les choses. Je pense que c'est ce qu'il a en tête. Après, la suite, on ne la connaît pas.
Et affaire à suivre sur Europe 1. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de la déclaration d'Elisabeth Borne qui décrit une situation inédite, intéressante pour une première ministre dont le nom n'a pas été cité une seule fois hier par le président. A tout de suite.